Bonjour à chacune, à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire, quelle grâce que nous avons de pouvoir nous réunir. C'est un privilège. Chaque fois qu'on peut se réunir, eh bien merci Seigneur. On a été privé de la communion fraternelle, plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, mais on apprécie. C'est là qu'on apprécie de se pouvoir se retrouver ensemble. Ce matin, notre texte d'introduction se situe dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 17. À partir de ce matin, j'ai eu à cœur de commencer une série. J'aime beaucoup faire des séries sur les livres de la Bible, séries sur des thèmes. Ce que je préfère le plus, c'est des séries sur les livres de la Bible. Mais pour ce matin, on va débuter une série qui est sur l'Église. Genre, je ne dis pas que ça sera tous les dimanches, mais en tout cas, ça sera peut-être entrecoupé. En tout cas, on va, sur plusieurs cultes, eh bien, voir ce sujet que nous connaissons, bien sûr. Mais il me semble important de pouvoir redire certaines choses. L'apôtre Paul, n'hésitez pas à dire à Timothée, répète ces choses. Il faut parfois répéter certaines choses, il nous le faut pour nous-mêmes, comme il faut aussi qu'on répète le geste de la Sainte Cène pour se souvenir aussi de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. L'Église, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années aussi, a été secouée. Et avec cette pandémie et tout ce que cela a généré comme conséquence, il est important de rappeler certaines choses sur l'Église, il me semble. Nous avons vu aussi quelque chose qui était là, mais qui a émergé d'une façon encore plus flagrante, c'est l'Église virtuelle. L'Église virtuelle. Ça nous a rendu un peu service quand même. Mais néanmoins, l'Église, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Cette pandémie nous a privés aussi de quelque chose qui est l'essence même de l'Église, qui est de la communion fraternelle. Beaucoup de questions, des questions qui sont dans le flou. On a du mal parfois à se projeter, on se dit, mais ouais, on essaye de faire des projets pour l'automne, mais on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, s'il y aura une deuxième ou une troisième vague de la pandémie, avec les difficultés économiques que cela génère. Il y a une crise des décisions. On a du mal à prendre des décisions. Mais la décision qui nous reste, et ça personne ne pourra l'ôter, c'est d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Alléluia. Alors lisons ce texte d'introduction dans Matthieu 16, à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ici, dans ce texte que nous connaissons bien, Jésus va déclarer que celui qui bâtit son Église. « Je bâtirai mon Église », a-t-il dit. C'est une déclaration, c'est une affirmation. C'est Jésus lui-même qui bâtit l'Église. Je pense qu'il faut bien réaliser que c'est son projet, c'est sa maison, c'est son Église. Et sa maison, c'est nous, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Sa maison, c'est nous. Dans Éphésiens, chapitre 2, à la fin du chapitre 2, tout à l'heure nous avons lu le début du chapitre 2 avec Jérôme, mais à la fin du chapitre 2, il nous est rappelé que nous sommes sa maison, une habitation de Dieu en esprit. Nous ne sommes plus des étrangers, mais gens de la maison de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu, nous composons la maison de Dieu, nous sommes ces pierres vivantes que le Seigneur a utilisées, que le Seigneur utilise encore aujourd'hui pour édifier, pour construire, pour bâtir son Église. Sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Ce qui restera quand Jésus va revenir chercher son Église, ce qui restera sur la terre, ce sont toutes nos structures. On n'en aura plus besoin de tout ça. Pour l'instant, on en a besoin. On a besoin de structures, on a besoin de finances, on a besoin d'associations, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, parce qu'on est encore sur la terre. Donc on a besoin de ces choses. Mais la réalité, c'est que quand Jésus va revenir, nous n'aurons plus besoin de cela. De la même manière, au niveau individuel, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin d'un compte en banque, nous avons besoin de certaines choses pour vivre ici-bas, mais on n'aura plus besoin de tout cela là-haut. Alléluia. On n'aura plus besoin de tout cela. Nous serons dans la gloire avec notre Seigneur, revêtus non pas de ces habits-là, mais de ces robes blanches que le Seigneur a préparées pour ses enfants, que son nom soit glorifié. Donc il y a des choses qui sont là sur cette terre, mais qui ne sont que de passage, et qui ne sont pas indispensables à notre culte. N'oublions pas que nous sommes appelés à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est lui qui bâtit son Église. C'est le projet du Seigneur. C'est le projet du Seigneur. Et puisque c'est son projet, ce projet résistera dans le temps. Il aboutira, il résistera dans le temps. Malgré tous les assauts, malgré l'assaut du temps, ça fait 2000 ans, mais l'Église n'a pas pris une ride. Alléluia! Il va faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride. Les rides, c'est l'expression du temps. Je commence à en avoir un peu. C'est l'expression du temps. Au fur et à mesure que les années passent, nos rides se marquent. Selon souvent l'habitude peut-être de certains rictus qu'on peut faire avec notre visage ou autre, mais les rites sont là, ça marque le temps. On peut estimer l'âge de quelqu'un par rapport à sa peau, à ses rides, mais l'Église, elle rajeunit. Alléluia. Elle rajeunit. Malgré les assauts du temps, l'Église est toujours là, malgré les persécutions, l'Église est toujours là. Malgré toutes les hérésies qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église et celles qui existent encore aujourd'hui, qui sont très nombreuses, très nombreuses. Et nous le voyons aujourd'hui sur Internet, ces hérésies foisonnent. Et malheureusement, il y a eu peut-être un risque pour certains pendant ces trois mois où on a été coupé de la communion fraternelle, il y a eu une recrudescence de ces hérésies sur Internet. Et malheureusement, peut-être que certains se sont laissés contaminer par ces hérésies-là. Mais malgré les hérésies, l'Église est toujours là. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le diable s'acharne contre l'Église, mais l'a perdu d'avance. Jésus, le chef suprême de l'Église, la tient dans sa main. Alléluia. Et c'est donc un projet, le projet du Seigneur qui aboutira, qui résistera à tous les assauts. Dans les derniers livres, dans le dernier verset du livre de l'Apocalypse, nous voyons l'Église triomphante qui est là. On l'a chanté même dans un des couplets du premier cantique tout à l'heure. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». On voit qu'elle a traversé les générations, elle a traversé les époques, et elle est là avec son Seigneur à la fin, que son nom soit béni. Alléluia. Puisque c'est le projet du Seigneur, il a son processus, il a son plan, il a ses matériaux, son timing, j'allais dire aussi. C'est son projet. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. De quand date ce projet du Seigneur ? À partir de quel moment le Seigneur a-t-il eu à cœur de faire une Église ? À partir de quand ? Dans Éphésiens, au chapitre 1er, le thème principal de l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Église. Aussi, dans le cadre de cette série sur l'Église, on ira plusieurs fois dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Au verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Comprenons bien que Dieu n'a pas été pris au dépourvu en se disant « ça n'a pas bien fonctionné avec Israël, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ?» Non ? Avant la fondation du monde. Dieu a un plan avec le peuple d'Israël, terrestre, sur terre. Dieu est fidèle. Et il a un plan aussi avec l'Église. Alléluia. Et le projet de Dieu de faire une Église date d'avant la fondation du monde. Pas après la création. Maintenant, j'ai créé la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Non. Avant la fondation du monde, c'était déjà dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas après la chute que Dieu a décidé cela. C'était dans son cœur avant la fondation du monde. Même si ce projet a vu le jour, il y a 2000 ans environ, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 2000 ans que Dieu a décidé ce projet. C'était déjà dans son cœur avant la fondation du monde, jusqu'au moment où les choses ont été rendues visibles, car ce que l'on peut voir n'a pas été fait de choses visibles, comme il est écrit. C'était déjà dans le cœur du Seigneur. C'était dans le cœur du Seigneur, et il a préparé, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, on voit que Dieu préparait les choses pour l'établissement de l'Église, pour bâtir son Église, avant la fondation du monde. Avant même l'apôtre Pierre, avant même l'apôtre Paul, avant même ces pères de l'Église, qu'on appelle les pères de l'Église, Dieu est à l'origine de ce projet. C'était déjà dans son cœur. Alléluia. Et nous n'y sommes pour rien, nous aussi. Nous n'y sommes pour rien. C'est le projet de Dieu. On peut dire, allez, oui, on va implanter une église dans tel ou dans tel quartier, dans telle ou telle ville. Alléluia! Mais qui c'est qui met à cœur? Le Seigneur est celui qui a prévu les choses bien avant nous, bien avant nous. Bien sûr, il nous fait la grâce de nous utiliser dans ce projet, il nous fait la grâce de nous utiliser dans cette construction comme il avait fait cette promesse à Pierre, il nous utilise les uns et les autres, et on va lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Excusez-moi, 1 Corinthiens 3, verset 6, pas verset 10, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dieu nous fait donc la grâce de participer à cette œuvre. Ce n'est pas rien, hein, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la maison de Dieu. Jésus a pu dire, je bâtirai mon Église. Et il nous utilise les uns et les autres. On sait qu'il y avait des problèmes dans l'Église de Corinthe. Certains disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, etc., moi d'Apollos. À tel point que l'apôtre Paul est obligé de rectifier un peu le tir, dire, mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos ? J'ai planté ? C'est Apollos qui a arrosé ? Si Apollos n'avait pas arrosé, le travail de Pierre aurait été inutile, la plantation, j'allais dire, aurait séché, il faut de l'eau, et c'est Apollos qui l'a apporté, mais c'est Dieu qui a fait croître, parce que c'est lui qui met la vie, alléluia. C'est lui qui met la vie par le Saint-Esprit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Quoi que nous fassions, nous sommes tous égaux, c'est ce que dit l'apôtre Paul au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Quoi que nous fassions, le Seigneur nous utilise, il nous fait cette grâce de nous utiliser dans son œuvre. Et il nous a confié des dons, des talents, des capacités pour justement nous y investir dans cette œuvre. Nous y investir dans cette œuvre, sachant que tout ce que nous faisons, puisque c'est l'œuvre de Dieu, puisque c'est le projet de Dieu, puisque c'est la maison de Dieu, tout ce que nous faisons a un sens, a un but, a une utilité. Comme il est écrit dans le Proverbe 31, verset 18, « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon ». Quand on fait quelque chose et qu'on sait que c'est utile, ça nous motive encore plus. Quand on fait les choses juste pour les faire ou par routine, ce n'est pas pareil. Mais quand on sait que ce qu'on fait a un sens, a un but, a une utilité, on est encore plus enthousiaste, on est encore plus motivé, on est encore plus zélé. Nous participons à une œuvre que Dieu avait prévue avant la fondation du monde et qui sera après ce monde. Alléluia, pour l'éternité avec le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Notre service n'est pas vain dans le Seigneur. Notre service n'est pas inutile. Nous participons à l'édifice, à cet édifice de Dieu, à l'édification du corps de Christ, quel que soit en quantité ou en qualité, nous participons à cette édification du corps de Christ. C'est extraordinaire. Quoi que nous fassions, c'est vrai que peut-être certains ont fait plus que d'autres. Peut-être que Paul a fait plus que d'autres. Que Pierre a fait plus que d'autres. Mais ça nous ramène à la parabole des talents. En fin de compte, ce que le Seigneur demande de nous, c'est de la fidélité, de la persévérance. Il y en a qui ont reçu 5 talents, alléluia, tant mieux pour eux, puis d'autres qui n'en ont reçu que 2. Mais ce qui est important, c'est d'être trouvé fidèle dans la maison du Seigneur. Sans oublier une chose importante, que c'est son œuvre à lui. Je bâtirai mon église, a dit le Seigneur. C'est la sienne. Attention, hein. C'est pas notre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et même si nous nous investissons, même si le Seigneur nous fait cette grâce de nous utiliser pour cet ouvrage, ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. C'est la sienne. Nous voulons nous investir dans l'Église, nous voulons aimer l'Église sans nous accaparer l'Église. C'est son Église à lui. C'est lui le chef suprême de l'Église. Il y a parfois de ces témoignages de pionniers qui ont fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Ils se sont donnés corps et âme pour l'Église, pour ouvrir des églises, pour implanter des églises. Ils y ont mis beaucoup de sueur, beaucoup d'années, beaucoup d'argent, ils se sont investis. Ils se sont tellement investis qu'avec le temps, parfois, certains de ces pionniers, ces œuvres-là sont devenues leurs œuvres. J'allais dire, c'est humain. Quelque part, c'était un peu leur bébé, hein. Tellement ils se sont donnés. On peut les comprendre. Et quand l'heure fut venue de passer la main à quelqu'un d'autre, ils n'ont pas pu lâcher prise. Ils se sont accrochés à ce qui était devenu, à leurs yeux, je dis bien à leurs yeux, leurs œuvres. Et malheureusement, ça a fait des dégâts. Ça a fait des dégâts. N'oublions pas, bien-aimés, quoi que nous ayons pu faire, que c'est son œuvre à lui. Même si nous y avons passé des années, des heures entières, que nous sommes investis, corps et âme, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et dire, Seigneur, merci de m'avoir tout simplement utilisé pour ton œuvre, d'avoir pu participer selon la mesure que tu m'avais accordée, selon la grâce que tu m'avais accordée, d'avoir pu participer un peu à cette œuvre que tu avais prévue avant la fondation du monde. Ce projet de Dieu est extraordinaire. Dans le texte que nous avons lu, on voit que ce n'est pas le projet d'un seul homme, mais Dieu utilise des hommes et des femmes pour cela. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia, hein ? Heureusement. Hein ? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette œuvre. Si nous étions seuls, ça ne serait plus une église. J'allais dire l'essence même de l'église, comme je le disais tout à l'heure, c'est la communion fraternelle. Nous ne sommes pas seuls. Mais le Seigneur utilise les uns et les autres selon les capacités, selon les dons qu'il communique aux uns et aux autres. Cela veut dire qu'il nous faut apprendre à travailler ensemble. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes la sagesse qui va avec l'amour nécessaire que le Saint-Esprit nous communique. Amour et sagesse et force qu'on a besoin pour l'œuvre du Seigneur. Cette église, cette maison de Dieu, elle est extraordinaire. Parce qu'on y trouve des choses extraordinaires qui viennent du cœur de Dieu. Qui viennent du cœur de Dieu. On aura l'occasion, bien sûr, de voir en détail un peu toutes ces choses-là. Mais l'apôtre Paul rappelle que le fondement, c'est Jésus-Christ. Une église qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ est vouée à se détruire. L'Église est fondée sur Jésus-Christ, elle est centrée sur Jésus-Christ. Et nous avons cette parabole que Jésus nous donne, une maison qui est construite sur du sable, elle va finir par se retourner, elle va se détruire. Quand va arriver les tempêtes, quand va arriver la pluie, elle va se détruire. Mais celle qui est bâtie sur le roc, elle va résister. Elle va résister. Ça ne veut pas dire que les tempêtes ne vont pas venir. Oui, les tempêtes vont tout aussi venir. Les épreuves vont arriver, mais elle résistera. Alléluia. Elle résistera. Merci Seigneur, tu es le rocher des siècles. La parole de Dieu faite chair. Et nous voulons bien réaliser que le fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui a donné sa vie pour son Église. On en parlera dans un autre message. Il a donné sa vie pour son Église. Au verset 11, il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui est le fondement. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. Ce n'est pas non plus l'apôtre Paul qui est le fondement, mais c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est bien conscient de cela, que lui, il a été juste là pour planter. Mais le fondement, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, savoir que Jésus-Christ. Et j'insiste là-dessus. Le fondement, il est là. Mais après, bien sûr, la construction, elle continue. Et elle continue avec des matériaux qui sont nobles. Des matériaux nobles. Et ces matériaux que le Seigneur veut que nous utilisions pour construire son Église sont des matériaux que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui nous enseigne. On ne peut pas concevoir l'Église sans amour. L'Église ne peut pas s'édifier sans amour, c'est impossible. Il suffit de lire Éphésiens chapitre 4. Elle s'édifie elle-même dans l'amour. Et sans amour, l'Église ne peut pas grandir, l'Église ne peut pas s'accroître, l'Église ne peut pas s'édifier sans amour. Le Seigneur nous a donné les dons spirituels, mais les dons spirituels sont que passagers. Un jour, on n'en aura plus besoin. Pour l'instant, on en a besoin. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous avons besoin des dons spirituels. Et il nous faut aspirer à ces dons spirituels pour l'édification de l'Église. Aspirer pour l'édification de l'Église. Mais ces dons spirituels sans amour, qu'est-ce qu'ils sont? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont rien. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Vous savez ce que ça fait quand, si on entendait un airain qui résonne, par exemple, au fond de la salle, tout le monde tournerait. Bon, ça attire le regard, ça attire les oreilles. Mais c'est tout ce que ça fait, ça ne produit rien s'il n'y a pas d'amour. Quand j'aurai la science de tous les mystères, nous dit l'apôtre Paul, la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que j'ai? Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est pour cela que les dons spirituels, oui, ils sont utiles. Ils sont donnés pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ. Mais l'apôtre Paul commence en disant « Recherchez l'amour. » Recherchez l'amour. Et l'amour va donner une force extraordinaire aux dons spirituels. Au don spirituel. L'Église ne peut pas s'édifier sans amour. L'Église ne peut pas s'édifier sans humilité. Ça aussi, c'est un matériau incontournable. Puisque nous sommes appelés à travailler ensemble, l'apôtre Paul a été appelé à travailler avec d'autres. On ne peut pas travailler ensemble s'il n'y a pas d'humilité. S'il n'y a pas d'humilité. Ces matériaux sont encore la sainteté. La sainteté. La sainteté convient à sa maison. Amen. Je crois qu'on a besoin de parler de sainteté aujourd'hui. C'est important de parler de la sainteté. L'apôtre Paul dira, je t'écris ces choses. Il avait l'espoir d'aller voir Timothée, hein, quand il écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, « Dans l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras combien il faut se conduire dans la maison, dans l'église du Seigneur qui est la maison de Dieu. Comment il faut se conduire ? La sainteté convient à sa maison. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Et c'est vrai que plus les temps avancent, plus la séduction est là, plus l'impiété grandit, l'iniquité grandit, les mœurs se dégradent de plus en plus, et le problème, c'est que ça devient normal. Mais le Seigneur nous appelle à la sainteté. Alléluia. Il veut faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache. Alléluia. Sans tache. Sans tache. Nous trouvons encore dans l'église, et c'est on ne peut pas édifier l'église sans pardon. Ah oui, parce que quand même, hein, on est des hommes et des femmes et on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Ça peut arriver qu'il y ait des accrochages, des étincelles entre nous. Mais le Saint-Esprit est là qui travaille notre cœur. Sans pardon, l'Église ne peut pas tenir. Il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner. On aura l'occasion de nous attarder un peu plus en détail sur toutes ces choses. Donc il y a des matériaux avec lesquels je pourrais allonger la liste avec lesquels il nous faut travailler. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il nous faut servir le Seigneur pour bâtir son Église. Mais je rappelle que c'est lui qui l'a bâti, mais qui nous associe à ce travail. C'est le projet du Seigneur et ce projet a un but. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Il est parlé de l'Église qui est la gloire de Christ. Gloire de Christ. L'Église est appelée à glorifier Jésus, alléluia, et à porter son beau nom à toutes les nations. À toutes les nations. L'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité. L'Église a un but, l'Église a un projet, l'Église a une mission. L'Église a une mission. Et nous ne voulons pas perdre de vue que c'est le Seigneur qui donne cette mission à l'Église, que c'est le Seigneur qui donne ce but à l'Église-là, que nous rentrons ainsi dans la volonté du Seigneur. Nous rentrons ainsi dans la volonté du Seigneur. On a peut-être nos propres projets à nous, nos propres buts, mais ce que nous voulons considérer, ce qui est important pour nous, le plus important, ce qui est incontournable, c'est ce que Dieu veut faire avec l'Église et au travers de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour ton Église ici même. Merci Seigneur pour tes églises qui sont en France et ailleurs, qui répandent en tout lieu l'odeur de ta connaissance. Nous voulons bien comprendre ceci, frères et sœurs, c'est que l'Église, lorsqu'elle n'accomplit pas la mission que lui a confiée le Seigneur, est en train de pécher. Le péché, c'est quoi ? Péché, c'est littéralement manquer le but. Et lorsque nous manquons le but que le Seigneur a confié à l'Église, l'Église pêche. L'Église est en train de pécher. Mais merci Seigneur, parce que tu sais parler aux Églises. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, il y a sept églises qui sont mentionnées au début du livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur a su parler à ces églises. Certaines d'entre elles, il y avait des choses à rectifier. Le Seigneur leur a dit ce qu'elles devaient faire, ces églises. Seulement deux, il n'y a pas de reproche. Il y en a quelques-unes ça va à peu près, puis d'autres qui étaient vraiment mauvaises. Mais même ces qui étaient mauvaises, le Seigneur leur a parlé afin qu'elles se repentent. Nous voulons vraiment prendre conscience que le Seigneur a projeté quelque chose pour l'Église. A projeté quelque chose pour l'Église qui n'a rien à voir avec toutes les associations, toutes les clubs, toutes les entreprises qui peuvent exister dans ce monde. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas diriger une église comme on dirige une entreprise. Peut-être je vous étonne en disant ceci. Bien sûr, il y a peut-être des points communs, je ne dis pas tout, dans ce qu'on appelle un mot à la mode aujourd'hui, le leadership. Mais il y a peut-être des points communs. Mais n'oublions pas quand même une chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est que l'Église n'est pas une entreprise humaine. Même si elle est composée d'hommes et de femmes, c'est l'entreprise de Dieu. C'est l'entreprise de Dieu. C'est le projet de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et l'Église ne peut être gouvernée, l'Église ne peut être dirigée sans les principes de Dieu. C'est avec les principes de Dieu qu'elle est et qu'elle doit être dirigée. Et pour moi, en tant que pasteur, ça me fait un peu trembler. Je me remets en question aussi. Non, je ne peux pas faire n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Parce que c'est selon lui qu'il faut diriger. C'est selon lui qu'il nous faut nous investir dans l'œuvre de Dieu. C'est selon lui qu'il nous faut travailler dans cette œuvre du Seigneur. On peut avoir des plans de marketing, des ceci, des cela. Bon, très bien. Mais franchement, est-ce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle? Ça peut avoir son utilité, peut-être, ponctuellement, pour telle ou telle chose, mais franchement, est-ce que le Saint-Esprit a besoin de ça? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de ça? En tout cas, quand on lit les Actes des Apôtres, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils ont eu besoin de leur langue pour parler du Seigneur Jésus. Alléluia! Seigneur, donne-nous cette simplicité, redonne-nous cette simplicité, Seigneur, pour que ton beau nom soit glorifié. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul donne gloire. Le problème avec les techniques humaines, c'est que souvent c'est l'homme qui en est glorifié. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Seigneur utilise toujours des choses faibles pour confondre les fortes. Il utilise des choses qu'on méprise, des choses qui ne sont pas, qui n'ont aucune valeur aux yeux des hommes pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Alors oui, merci Seigneur pour ton Église. C'est ton projet, Seigneur. C'est toi qui l'as bâti. Alléluia. Et tu la tiens dans ta main et elle résistera à tout. Que son nom soit glorifié. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses ce matin. Merci Seigneur, parce que tu nous rappelles que c'est ton Église et que c'est toi qui l'as bâtie. Que c'est toi qui l'as bâtie et que tu nous demandes dans ta parole de prendre garde à la manière dont on bâtit sur le fondement. Seigneur, merci de nous avoir utilisés jusqu'à ce jour, les uns et les autres. Et nous voulons continuer avec un zèle renouvelé. Nous voulons continuer à nous investir pour ton œuvre, sachant ce à quoi tu nous appelles les uns les autres. Ô, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ici, pour tout ce que tu vas faire. Ô, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Seigneur, merci, Jésus. Amen.